R22, tout le monde, antenne, corps étrangers.
Tattoos all tell a story. Each person has a different story. Some stories are different, some are understandable, some aren't. Mine's telling the tale between my good side and my bad side. Some have more bad than good. Some have more good than bad. But at the end of the day, my good outweighs my bad. We all do things in life that we don't understand at point in times. But who is perfect? Who can judge? Only God can judge me. We all go through points in life where you need a sign, the star shines light to life. And in life, we all have struggles. Some of us are cats. Some of us smoke. Some of us don't. But at the end of the day, we all, everybody, just wants love. Love is what guides us to happy places and makes some people feel complete. Tattoos make me feel complete. That's why I love tattoos. They tell a story. They tell my story about me.
Voilà, donc rue Gabriel Péri à Saint-Denis, le soleil s'est levé, on est au musée d'art et d'histoire, voilà, à cet espace de chapelle qui sert de lieu d'exposition au département de la Seine-Saint-Denis pour l'exposition de Frédéric Nosiciel, La peau vive. Et je voulais, Frédéric, qu'on parle du chemin en fait qui nous mène jusqu'à La peau vive. On s'est rencontrés aussi à travers tes films autour de la communauté des vogueurs, d'abord à Baltimore et puis à Paris. On a montré à l'espace Chiasma aussi des étapes de recherche de La peau vive au tout début de ta résidence. Et puis là, voilà, quasiment 2 ans après, 1 an et demi après, on se retrouve avec une grande exposition à Chapelle Vidéo. Donc ça m'intéressait de revenir sur 2 choses, sur le parcours, sur les premiers signes peut-être de ce travail qui vont être à la fois quelque chose qui va travailler au plus près du corps, alors que c'était plutôt au départ sur des espèces de représentations collectives et plutôt dansées. Tu as mis peut-être à distance de la question baroque pour ce projet et progressivement, effectivement, une entrée en scène. Donc c'est là dont on va parler.
Oui, c'est vrai qu'on passe d'une certaine façon du collectif et donc du politique qui m'avait amené vers le baroque à quelque chose de plus personnel et de plus individualisé, on va dire, et qui du coup va être plus romantique, on va dire. C'est l'homme unique, enfin le soi-même face au monde. Et c'est plus le groupe, c'est plus l'organisation politique du groupe qu'on peut retrouver dans la culture voguing, qui peut rappeler celle de la cour du roi et qui m'avait renvoyé vers le baroque. Quand on s'était vu en 2014, je rentrais en fait avec les premières roches de La peau vive. Le premier test, je l'ai fait en 2012. Avec Cine, après avoir fait cette série de portraits des vogueurs dans la rue, où j'ai décidé de sortir de l'underground, ou de sortir du secret, les vogueurs pour les mettre en costume dans l'arrière-cour ou dans la rue, pour insister sur le fait que leur présence même, et leur flamboyance, et leur héroïsme, changer la ville, changer la perception qu'on pouvait en avoir. Et je propose à Sin, comme ça, sur une intuition, de filmer ses tatouages, mais peut-être de l'amener à se filmer lui-même, et de filmer lui-même ses tatouages. Donc ça donne un des films qui est dans l'installation, qui est un pilote. En 2014, lors d'une résidence, je commence à produire des rushs comme ça en studio, que je montre et que je déroche à Kiasma avant de savoir exactement vers quoi ça va me conduire, comment je vais concevoir l'installation. Et c'est au moment où, évidemment, je viens de faire une série de films plus dansés avec la communauté des vogueurs de Paris ou de la scène parisienne du voguing.
Oui, du coup, il y avait cette idée aussi que tu as déjà exprimée auparavant dans ton parcours, de passer d'une forme photographique en quelque part en la poussant jusqu'à une certaine limite pour accompagner cette scène qui était pas qui refuse dès le départ la question documentaire, donc on a parlé à plusieurs reprises qui se situe autre part que dans la notion de documenter sociologiquement un espace, si ce n'est que de considérer le corps comme une archive ou comme un document d'une situation, mais en tout cas ne pas le documenter avec un paysage sociologique autour, de vraiment te rapprocher quelque part de l'individu ou de retrouver l'individu. Et donc cette photographie qui va être ton premier geste, arriver à une autre forme qu'on a aujourd'hui, qui à mon avis tient à la fois d'une référence à la peinture et à la photographie, presque plus qu'au cinéma.
Oui, et qui à mon avis aussi est très postmoderne, au sens de la danse. Parce qu'évidemment je quitte la photographie qui était le premier médium que j'ai embrassé, qui était le plus simple techniquement, qui pour moi a commencé à atteindre ses limites, et puis en rencontrant des gens qui sont dans la performativité, tout de suite revient mon background dans la danse contemporaine et notamment avec la postmoderne américaine, Andy de Groot, la postmoderne étant les chorégraphes postmodernes étant les premiers à faire appel à la fois à la culture savante et populaire en même temps, c'est-à-dire John Cage par exemple en termes de musique, et puis travailler avec des amateurs, des gros, des noirs, des enfants, avec des autistes, avec des gens en crise, avec des gens malades. Et qui constitue moi mon héritage, ou en tout cas ma formation artistique. Et donc très très vite j'arrive vers des pratiques en studio et donc sur un médium en temps réel, et donc l'image animée et la performance que moi je considère non pas comme un art performatif, c'est-à-dire je ne suis pas artiste de performance, mais j'utilise la performance ou la présence des performeurs à l'intérieur des installations ou des expositions comme des images vivantes, c'est-à-dire on crée en direct des images. Par exemple, lorsque Dead Cabal va venir se refilmer en direct face publique, on produit un nouveau film qui peut rejoindre le corpus de l'installation, ou en tout cas de la série. Donc il y a cette espèce de va-et-vient permanent.
On va rentrer dans l'exposition, dans la chapelle en fait, du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Alors, on va parler un peu de la chapelle.
Et... Ce qui est intéressant là, dans les bruits de la ville, c'est qu'on a les sirènes de Saint-Denis sont les mêmes que celles de Baltimore, parce qu'on a en écho dans la chapelle le son de la sirène de Baltimore avec celle des fois des sirènes qui passent dans Saint-Denis. Donc là, on va passer de l'extérieur de Saint-Denis vers l'intérieur.
Voilà, alors là on est entré maintenant de plein pied dans l'exposition La peau vive, alors, qui se présente avec un film principal, une production très grand format comme ça, qui de fragments de corps et de tatouages. On parlera après de ces questions d'échelle tout à l'heure. Et puis une série de films qui nous entourent en fait sur des écrans plus petits. qui sont eux-mêmes des espèces de fragments, à la fois avec une pièce qui est presque une pièce qui est peut-être la seule qui n'est pas directement une œuvre plastique, mais plutôt une pièce qui présente le dispositif de filmage lui-même, comme si dès le départ, tu voulais que ce ne soit pas l'enjeu, en fait, ce soit dit une fois de manière assez simple. Toute l'imagerie qui va peupler cette exposition à la peau vive, c'est une tentative pour toi, à la fois de poursuivre une idée, mais à travers une pratique où tu lâches prise et tu donnes l'outil vidéo à l'autre.
Ouais, ce premier film de Casper qui ouvre l'expo, c'est on voit Casper et Bonnie en studio en train de se filmer, et au bout de 3-4 moments où ils se sentaient un peu en difficulté, ils commencent à comprendre le dispositif, et là on sent le plaisir à la fois narcissique peut-être un peu, mais aussi simplement le plaisir de jouer avec un dispositif, où d'un seul coup il se met effectivement à danser, à trouver une chorégraphie qui va lui permettre de filmer le parcours sur son corps, qui va décrire ses tatouages. On sent, et à ce moment-là, je lâche effectivement le dispositif, puisqu'il est en mesure de se filmer tout seul, et donc je me mets en retrait. Je sors simplement mon iPhone pour filmer un peu de l'extérieur le making-of, et je m'aperçois là qu'il y a une espèce d'attention portée au mouvement et à l'image en même temps, que je trouve très très forte et très belle, où on sent que le narcissisme est complètement transcendé ou sublimé ou canalisé, on va dire, plutôt dans la fabrication d'une image en mouvement. Et en fait, ça m'ouvre plein de voix à ce moment-là, en me disant qu'il y a non seulement les films de filmage eux-mêmes, de filmage brut, mais aussi des possibilités de performatives, c'est-à-dire de performance, de recréer en public ces moments de filmage. Je sens aussi que de l'extérieur, en voyant le hors-champ du coup, du film, on sent qu'il y a de la danse et qu'il y a éventuellement la possibilité pour d'autres personnes extérieures de recréer à partir du film la danse qui est contenue derrière, et donc une série de performances qui va comme ça animer l'installation tout au long de son exploitation.
Alors là, du coup, dans son vocabulaire elle-même, tu as ce film, ce grand format de film qui nous fait face quand on entre. Alors, on est dans une chapelle, alors on en parlera aussi, donc un lieu qui impose aussi à la fois le rapport au sacré, sur lequel on peut revenir, et à la fois un espace qui est un peu un espace de l'histoire de l'art, notamment du grand format en peinture, comme un peu référence, en tout cas, je pense, de la Renaissance et de la question baroque, qui quand même traverse beaucoup ton travail. Et à côté de ça, tu as donc une série de petits écrans qui sont beaucoup plus des fragments. Est-ce que tu peux me parler justement du vocabulaire de l'exposition ? Comment tu imagines, même s'il n'y a jamais de visiteur idéal, comment tu imagines qu'on s'y projette ? Parce qu'on est quand même aspiré directement par ce grand paysage, ce grand tableau vivant, et tu as dit au début qu'on est vraiment dans quelque chose qui, peut-être avant de la vidéo, est plutôt de l'image du tableau vivant, quoi, de l'image mise en mouvement, on le voit très bien. Et voilà, quelles sont après les fonctions pour toi narratives ou de circulation de tous ces fragments qui environnent ce film principal ?
Oui, alors je peux répondre à deux niveaux. Là, en fait, cet espace, je l'ai conçu, ou je l'imagine, où il devient, même si c'est a posteriori, c'est plutôt la caverne, en fait. Et notamment sur la... Tu vois, ces cavernes sur les premiers gestes de l'art, les peintures rupestres, où l'homme s'autodocumente. Et je reviens quand même sur ce principe-là, où par leur tatouage, ils s'autodocumentent. Et on retrouve là, sur les parois de la chapelle, des gestes d'autodocumentation. Et c'est ce qui m'intéressait, ce qui renoue avec dans l'histoire de l'art, à ce moment où je pose la question à quel moment on a décidé en art, quel moment on a décidé de dépeindre l'autre et plus soi-même. Je pense que c'est une bascule très forte dans l'histoire de l'art, et je pose la question du regard sur soi ou sur l'autre d'emblée. Le grand film finit par un regard caméra qui vient nous demander qui filme ou qui regarde. Sur la construction même de l'installation, c'est deux films, je dirais que c'est deux films qui s'écrivent en même temps. On a sur les parois, donc tout autour, des petites scènes où chacun, en fait, chacun décrit son rapport à ses tatouages ou à son corps.
Dans le dessin animé Kirikou, quand il est né, sa mère, elle dit un genre de phrase. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfonce tout seul. Genre, il sait déjà tout, quoi. Et bien moi, quand je suis né, c'était pareil. Je savais déjà tout. Je savais déjà que ma vie allait être différente des autres, que l'histoire de ma famille était déjà différente. J'ai même eu l'impression que dans le ventre de ma mère, j'ai choisi d'être un garçon pour pouvoir savoir ce que ça fait et que j'allais redevenir une fille un jour comme ça.
Sur chaque écran, on a des sortes de témoignages, en fait, qui sont des témoignages directs ou poétiques, ou faits a posteriori, où on entend des voix sur des images. Et un premier film s'est créé à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est fragmentaire. Chacun peut...
À la fois, on a déjà des régimes différents, parce qu'on va vraiment avoir le régime de l'entretien, comme dans cette pièce-là, où on a vraiment un cadrage portrait-entretien d'une... une personne transgenre, donc la question du genre est posée aussi de manière plus directe dans le cadrage. À d'autres instants, on reste dans un cadrage un peu de la même famille que celui de la projection principale, c'est-à-dire que là, qui est du gros plan, qui tente en fait peut-être d'échapper à l'identification spécifique de ce corps pour aller vers une question du corps dans laquelle tout le monde peut entrer, j'ai l'impression. Un corps un peu plus... un espace du corps plus général, dans lequel quelque part, on se voit en regardant, quelque part, quoi.
À partir du moment où il y avait un dispositif où ils filmaient en gros plan leur tatouage, j'ai pas voulu le casser en leur proposant de filmer leur visage, sauf évidemment s'ils avaient des tatouages sur le visage, hein, ce qui arrive pour Cory. Mais chacun des films, en fait, décrit une situation particulière. On va voir Sin, dans le premier écran, qui a répété dans sa tête, au moment où on répétait, une sorte de poème qui décrit chacun de ses tatouages. On va avoir Ivy, ou Lionel plutôt, qui demande à ce qu'on l'appelle dans ce film-là Lionel Abenaki, qui est son nom civil, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas Diva Ivy, c'est-à-dire son alter ego, qui réfléchit en regardant ses tatouages et en jouant avec ses seins, qui se demande ce que ça va donner quand il aura des seins, quand il envisagera ou pas la transition, avec à la fois beaucoup d'humour et en même temps une forme de naïveté assez profonde, en fait. On va avoir Onesha qui redanse son propre film, ou on va avoir Lisa, effectivement, qui m'avait demandé de pouvoir raconter son histoire face caméra, et dont j'ai extrait un moment de 2 minutes où elle raconte son histoire du ghetto. On va avoir Dale qui se filme et en même temps qui m'envoyait par texto des mémos vocaux où il a des sortes de pensées comme ça, c'est des pensées intérieures sur la vie, sur le fait de s'ajuster en permanence, le fait qu'ils connaissent à la fois Paris et Baltimore, le fait qu'ils connaissent à la fois cette périphérie, le fait qu'ils soient très impliqués dans le travail depuis le début aussi. On va avoir Durl qui raconte ses tatouages en regardant a posteriori le filmage qu'on a fait ensemble, et où on entend aussi ma voix et on entend que je le guide parce qu'il a des problèmes en fait pour voir la droite et la gauche, et donc qui finit par me demander de le guider une fois qu'on avait défini ensemble le parcours, et qui vient aussi contredire d'une certaine façon le fait à chaque fois je me mets en retrait, et en fait il y a quand même un aller-retour et un va-et-vient entre eux et moi. Forcément, on va avoir ensuite Jean-Luc Vernat, un film qui est issu d'une performance qu'on avait faite, très baroque, effectivement, mais parce que Jean-Luc aussi est quelqu'un d'extrêmement baroque, où il dansait, il crée une danse à partir de son propre filmage. Et donc, en fait, chacun de ces écrans-là va donner un élément supplémentaire sur la question du centre de la périphérie, sur la question du transgenre, sur la question du ghetto, sur la question de qui guide qui domine qui, et des rapports de domination, évidemment. Et en étant très, très proche des peaux, des corps aussi, on finit par oublier ou par ne plus voir est-ce que ce sont des noirs, est-ce que ce sont des blancs. On voit une variation infinie, en fait, de couleurs de peau. Qui fait qu'on est effectivement plus sur une question existentielle qui va nous être envoyée par le grand film, sur qu'est-ce que c'est que cette peau, cette chose qui nous sépare du monde, cette chose qui est à la fois fragile et forte. Et qui pour moi, du coup, bizarrement, on en avait un peu parlé, me fait quitter un peu une obsession baroque pour aller vers quelque chose de, je dirais, plus romantique en termes d'histoire de l'art. De ce moment de l'art, à la fois de l'écriture et de la peinture, où on se demande comment rester doux face à la violence du monde. Et c'est vrai que j'ai monté en plus ce film un an où j'étais en plein travail au moment des attentats. Et que se posait pour moi la question de comment résister avec une chose aussi fragile que la membrane de la peau à cette violence-là.
It takes a lot to deal with me, like, cause I don't want a guy who's gonna try to think that he can stop my growth or want me to just sit in the house and cook and clean and, you know, go to work and go to the opera and all that. Like, I like to go clubbing, I like to travel. Like, I like the element of going to the basketball court to see the boys play basketball. I like the element of hanging in the hood from time to time, even though I'm not from the hood, theoretically. I just like the hood. I just like the hood. Like, I love the hood. Like, I love the urbanism of the hood. And I'm not one of those people who are that structured. Like, I can be structured because I am structured, but that gets kind of boring. And then I'm going to tip out and I'm going to go do some risque kind of hood kind of thing. Like, I'm gonna go to the hood. Like, I'm going to the hood. I'm going to the hood. Like, even every state that I travel to, I go to the hood.
Il y a une chose aussi qui me semble assez présente et qui rejoint aussi peut-être ce moment liminaire de ton travail photographique à Baltimore où tu photographies des vogueurs qui s'habillent, c'est-à-dire qui préparent leur sortie dans la rue, parce qu'il y a beaucoup cette question-là de la fierté ou de la capacité à se tenir dans la figure qu'on a décidé d'être, donc assumer en quelque sorte, même si le terme, moi, je trouve, est un peu pas aussi flamboyant que ceux qui font, c'est-à-dire pour moi, c'est la question de la sortie, donc, pas comme le coming out au sens d'un rapport moral à la question, mais un rapport plutôt du spectacle de la société, entrer en scène dans une figure qu'on a décidée, donc ne plus subir non plus ni son genre, ni son origine sociale, pouvoir être une forme héroïque comme ça. Et j'ai l'impression que derrière cette forme un peu plus puissante, héroïque du voguing que tu avais exploré, on a une version ici un peu plus fragile, mais qui continue à être cette possibilité de faire une sortie. Donc là, on sort avec vraiment le minimum de choses, c'est-à-dire on est avec sa peau, mais la peau, avec sa dimension un peu biographique et l'écriture, qui est aussi une espèce de, comment dire, de costume et de récit, quoi, qui aussi quelque chose avec lequel ils sortent. Donc là, il y a la notion de sortir, de s'exposer, d'exposer. Alors c'est autant la performance que travailler avec un artiste et montrer des œuvres. Il y a une notion de se dire, on sort avec une autre identité, d'une manière affirmative. Mais je trouve que par rapport à la puissance que dégageait ton travail sur le voguing, qui à mon avis est parfois aussi un éblouissement qui peut être contradictoire, qui peut donner l'impression qu'ils sont plus forts et peut-être moins fragiles qu'ils sont en réalité. Là, la peau vive est assez complémentaire, montre aussi qu'il y a une fragilité derrière tout ça et que c'est pas facile de se tenir à l'endroit où veulent se tenir ces personnes, quoi.
Oui, c'est une belle manière de le dire, sortie, parce que sortie, ça contient une chose et son contraire. C'est-à-dire une sortie, c'est-à-dire on apparaît, mais une sortie, c'est aussi je disparais. Et c'est cette capacité d'apparaître et de disparaître quand je le décide qui est en jeu ici, et non pas un diktat de visibilité permanente. Donc je décide quand j'apparais que je disparais, et donc je décide quand j'expose et quand je ne m'expose pas. Et donc pour moi-même aussi, quand je m'expose ou quand je ne m'expose pas, ce qui m'a d'ailleurs conduit à venir performer avec les vogueurs de Paris à l'intérieur de l'installation. Ça me semblait super important de prendre en charge aussi ce dispositif. C'est ce qui relie aussi ce que tu disais sur eux, le fait qu'il existe dans l'installation des gens comme Jean-Luc Vernat ou Ded Cabal qui ne font pas partie de cette scène transgenre noire du voguing, mais parce que aussi eux décident d'être des chevaliers. Tu parlais d'héroïsme, effectivement, moi je pense que c'est, il y a quelque chose de chevaleresque au sens très très noble du terme. Dans cette capacité de prendre en charge son identité et de la jeter à la face du monde. Je pense que cet héroïsme et cette chevalerie n'existent plus, par exemple, dans la communauté gay, telle qu'elle l'a été dans les années 70 à San Francisco ou ailleurs, où on pouvait parler au nom de tout le monde en termes de mixité sociale, en termes de mixité raciale. C'est plus le cas aujourd'hui. Et ces gens renouent avec cette chevalerie ou cette manière très chevaleresque d'être au monde. Donc c'est évidemment ce qui est très fort. Évidemment, là on est très très près du corps, donc on pourrait dire que je les déshabille ou qu'ils se déshabillent. Donc c'est aussi pour poser la question du regard exotisant sur le corps noir. c'était une question que j'avais déjà abordée et qui posait peut-être problème pour certains dans un des films avec les Vogueurs de Paris que j'avais fait, mais qui était très très assumé. C'est oui, le corps. D'abord, le Vogueur peut être exotisé si on le labellise ou si on l'assigne à cette place de Vogueur. En travaillant avec eux et en les emmenant dans ce travail-là, en les mettant à nu, en leur proposant de partager leur intimité, c'est aussi de les désassigner, c'est aussi de dire qu'ils sont bien autre chose que simplement des vogueurs.
Après, on a l'impression aussi que l'exposition et le geste est aussi à contre-courant pour une autre raison, qui est que quelque part, la puissance érotique du corps noir, et notamment masculin aujourd'hui, on le retrouve plutôt affiché à travers une expression violente et policière. On a vu dans des événements très récents que finalement le rapport de domination sexuelle raciale s'exerçait à travers un rapport de violence et donc pas un rapport de séduction et de contact de la peau doux. Il y a quelque chose qui s'exprime autre part. Là, il y a un espace possible aussi du désir de l'autre qui n'est pas que dans une violence de l'autre, comme Fanon en parle, c'est-à-dire projection de ses fantasmes les plus obscurs sur l'autre. Il y a possibilité d'une capillarité, donc de la peau, qui soit plus douce, qui puisse être assumée. Quoi, parce que la question de la séduction ne doit pas non plus devenir une forme honteuse. Quoi, je trouve qu'après, il y a cette espèce de conservatisme moral qui, voulant éviter l'exotisme, construit des interdits érotiques qui semblent assez partagés.
C'est-à-dire qu'au nom de la non-exotisation de l'autre, on finit par ignorer l'autre ou ne pas le montrer, pas le représenter, etc. Donc moi, c'est une chose que j'assume depuis le début, dont je suis conscient dès le début, de prendre ce risque-là, de prendre le risque qu'on projette sur moi, soit cette exotisation, soit ce refus d'exotisation, etc. Moi, je préfère prendre le risque de faire des conneries, et de traverser du coup et de déconstruire ce rapport exotisant que de ne rien faire et rester chez moi et de faire en sorte que ce rapport d'exotisation et donc domination perdure d'une certaine façon. Donc pour moi c'est une manière de casser ce rapport là et je pense que ça fonctionne super bien en fait. Quand des gamins ici de Saint-Denis ou d'ailleurs viennent, la question ne se pose même plus en fait. D'abord ils se reconnaissent ou se reconnaissent pas dans le travail, mais y a, en fait on se rend compte qu'il y a une... Qu'il soit vogueur ou qu'il soit noir, n'a finalement pas tellement de. Passe au deuxième plan, en fait. Ce qui ressort, effectivement, c'est cette générosité à partager leur intimité, leur fluidité ou leur heurt dans le mouvement face à la caméra.
L'autre chose qui me semble résonner ici et l'espace dans lequel on est se renforce ça, c'est vraiment ce rapport au sacré. Alors, ça m'intéresse d'y venir parce que je pense que. Il y a un espace de confusion qui s'est installé entre le sacré et le religieux, qu'on n'a pas pris assez la peine de repréciser. On va se rendre dans l'exposition dans un coin, finalement, qu'on ne voit pas en fait, directement lorsqu'on pénètre dans l'exposition. C'est en commençant à suivre les différents écrans, on trouve une image que tu as choisie, en fait, qui est une image du musée d'art et d'histoire, hein, que tu as choisi de conserver dans l'exposition. Qui est l'une des seules images fixes avec une photographie. Tu peux nous parler de cette image-là, en fait ?
C'est un Christ, alors, dont on pourrait dire que c'est un Christ tatoué, mais en fait, c'est un Christ calligraphié. Ça a été une œuvre qui fait partie du musée, qui est en fait un dessin calligraphié, qui était un cadeau à Louise de France, qui est la fille de Louis XV, qui était pour qui on a construit ce Carmel, en fait, puisque le musée est un ancien Carmel. Là, on entend les respirations derrière du grand film, puisque tout le son du film est construit à partir soit des sons ralentis des films et de respiration. Donc, toutes les actions du corps, en fait, d'une certaine façon. Donc, on a ce Christ qui fait face au grand film, mais qui renoue pour moi, qui renvoie à Jean-Luc Bernard.
Qui est aussi en relation avec une image que tu as photographiée à Baltimore.
Et donc, je craignais un petit peu que ce Christ-là devienne dans la chapelle, face au grand film, dans des espèces de. Qu'il y a un côté sacré. Et quand je montais, il y avait cette photo de Dirl, que j'appelle Beautiful Banshee, qui est la figure de l'homosexuel des ghettos, qui était devant mon écran, en fait, pendant 3 mois de travail. Et c'est au dernier moment que je comprends que c'est cette image qu'il faut mettre à côté du Christ pour créer cette relation et désacraliser, en fait, cette figure du Christ. Dans cette chapelle.
Et à la fois, la question du sacré, si elle est rejouée hors du champ du religieux, je vais pas me faire que des amis à dire ça, mais si on repense la question du sacré hors du champ religieux, c'est-à-dire recréer en fait des choses qui sont sacrées, comme le corps de l'autre, je trouve que quelque part, là, ce travail sur les corps et sur la question de la peau recrée du sacré païen, ou recrée peut-être même le sacré religieux de l'époque baroque, c'est-à-dire qui fait sans cesse d'aller-retour entre des choses qui sont du domaine du religieux et des choses qui sont du domaine du charnel, ou en tout cas le corps n'est pas évacué du comme en Occident par la suite ça s'est produit, et comme c'est pas le cas par exemple dans des rites des Suds ou en Afrique, où la question du sacré se joue avec une surprésence du corps, où l'interdit du corps n'est pas non plus contingente avec la question du sacré. Là, on trouve effectivement la notion du sacré qui revient en tout cas au corps de l'individu, à la possibilité d'une corporalité non plus conceptuelle comme dans la religion catholique, mais une corporalité vécue, réelle et singulière.
Oui, il n'y a pas une sacralité, il n'y a pas de moralité qui est intégrée dans ce... Mais effectivement, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui nous reste quand on n'a plus rien? C'est le corps. C'est là que se joue une forme de sacré, effectivement. L'histoire de ma famille aussi me renvoie à quelque chose d'extrêmement sacré. Qu'est-ce qui fait que les gens de ma famille, mes deux grands-pères et mon oncle, ont résisté à Auschwitz pendant 2 ans ou 3 ans? C'est cette question du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est à ce point marginalisé, à ce point violenté, racisé, assigné, la seule chose qui reste et qui nous permet de traverser le monde, c'est sa peau et son corps. Donc il y a quelque chose évidemment de sacré là-dedans pour moi, évidemment. Alors on pourrait faire comme ça, se dire que les tatouages m'intéressaient à cause de la question d'Auschwitz, mais ce ne sont pas les tatouages qui m'intéressent là. C'est plutôt effectivement cette peau marquée par l'expérience de la vie en particulier, et cette chose sacrée de la vie, et cette chose sacrée d'être soi-même.
Ça me renvoie à cette idée aussi que posait Bourdieu et qui est très active maintenant dans les pratiques performatives d'aujourd'hui, c'est de dire le corps est l'espace d'inscription d'une histoire, et notamment d'une histoire qui n'est pas le grand récit des dominants, mais d'une autre histoire. Donc là, certains ont une histoire racontée, d'autres ont des corps où est inscrit l'histoire. Donc du coup, ils deviennent eux-mêmes des espèces d'archives d'une espèce de monde, en fait, non documenté, subalterne, parallèle. Voilà, donc quelque part, il y a, j'ai envie de dire, c'est presque un film d'archives aussi. Oui. C'est une hypothèse.
Quelqu'un me disait que, pour revenir au sens de la chapelle, en tout cas de la caverne, pardon, donc ce que tu dis va aussi dans ce sens-là, c'est qu'on a l'impression que les tatouages viennent de l'intérieur du corps pour venir s'imprimer à la surface de la peau. Donc il y a quelque chose d'une profondeur comme ça, de quelque chose qui est derrière, de quelque chose qui est... alors qu'à la fois, évidemment, du passé, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de l'archive, c'est-à-dire j'archive au fur et à mesure, ou je décris au fur et à mesure, je commente au fur et à mesure les événements de ma vie, puisque ce sont les grands événements qui viennent s'inscrire sur le corps. Durl dit, en revanche... chaque fois qu'il a quelque chose de dur dans sa vie ou qu'il en veut à quelqu'un, il va se faire un tatouage, c'est-à-dire qu'il va mettre de la douleur sur de la douleur pour exorciser la douleur. Donc il y a peut-être dans ce cas-là la question de la douleur de l'histoire qui est en jeu aussi dans le travail.
Après, il y a aussi cette question de la prise en charge du récit, dont on travaille en fait, qui n'est pas un travail directement narratif, qui n'est pas un travail narré au sens d'une histoire, mais qui est vraiment un travail visuel et du mouvement dans l'image. J'ai l'impression que l'introduction du tatouage, on pourrait interpréter ça aussi comme une espèce d'étape vers du micro-récit, quoi. C'est-à-dire c'est de la petite histoire se raconte, ça permet aussi de déléguer l'histoire. Et moi, j'aime bien l'idée aussi de cette délégation, qui est quelque chose important dans l'histoire de l'art, et notamment dans l'histoire de l'art aussi classique, même si c'était dissimulé, moderne et puis contemporain, c'est la notion effectivement de faire, de fabriquer une œuvre par délégation, de raconter à travers des gestes des autres. Et là, ce qui me semble intéressant, c'est qu'à la fois, c'est comme si tu arrivais par rapport aux pièces sur les Vogueurs, au seuil de ton masque en quelque part, là où toi-même il y avait une forme de sortie. Comme tu dis, qui va aussi se prolonger par des gestes performatifs, parce que tu performes avec avec d'autres performeurs dans l'exposition. Donc une capacité aussi à trouver ta place dans cet univers-là. Et comme tu disais au départ, où se posent directement des questions exotiques, des questions du rapport à l'eau, des questions sociales, des questions géographiques et politiques. Là, quelque part, la chose est comme un espèce de rite de passage vers une possibilité aussi affirmative, toi, d'être dans ce récit, d'être une forme de narrateur de ces micro-histoires écrites sur le corps.
Mmh. Oui, évidemment, avec la photographie, c'était compliqué de raconter des histoires. Mais en fait, ce qui se trouve surtout, c'est que on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé de raconter ma rencontre avec les vogueurs, les histoires que me racontent ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai toujours résisté à cette chose-là. C'est-à-dire que je suis pas là pour chroniquer, je suis pas là pour sociologiser, je suis pas là. Et la relation que j'ai avec eux, je vais te la raconter comme ça dans une conversation. Mais ce sont des choses, des histoires intimes, des histoires personnelles qui sont arrivées. Donc déjà, moi, je pose très très peu de questions, en tout cas face caméra, aux gens avec qui je travaille. Je les interviewe jamais. Et en fait, chaque parole que vous avez sur chacun des écrans sont des paroles spontanées qui sont arrivées à un moment donné parce qu'eux ont senti la nécessité ou l'envie ou le désir de parler ou de raconter quelque chose. Lionel, à un moment donné, me dit de ne pas couper la caméra parce qu'elle a encore quelque chose à dire. D'ailleurs, le film s'appelait au départ « J'ai encore quelque chose à dire ». Parce que il y a toujours, et puis ça joue dans son récit à elle. Dans ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux jamais lui faire redire la même chose. J'essaie de lui faire redire plusieurs fois une phrase, et à chaque fois que je lui dis redis la phrase, elle partait encore ailleurs. Donc elle procède toujours par, elle va toujours vers l'avant en fait.
Mais une trans âgée, ça vit comment ça? Une trans à l'âge de 60 ans, 70 ans? Ouais, parce qu'elle a déjà bien eu le temps de s'y faire à son corps. Bon, on verra bien. Peut-être que je deviendrai trans à 40 ans et puis voilà.
Et donc à travers tout ça, évidemment, je construis. Alors, je commence à prendre en charge une forme de narration qui serait du même ordre que celle des films et du mouvement. Ce serait une narration qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qui va toujours de l'avant. Alors, pour répondre aussi plus clairement, plus directement à ta question, dans l'écriture des deux films, en fait, c'est-à-dire des écrans fragmentés du grand film, il y a le début de prendre en charge quelque chose de l'ordre de la fiction et de la narration. Ouais. Et pas simplement soit du document, comme avec The Fireflies, ou de la chorégraphie, c'est-à-dire de plans-séquences chorégraphiés avec les danseurs, qui n'est pas complètement dans une forme de narration non plus, mais qui est plus dans une chose d'une écriture chorégraphique.
Moi, ce que je trouve être en écho avec aussi les personnes que tu as invitées à participer au projet avec toi, c'est aussi que quelque part, eux, ils sont dans des mises en récit. On a parlé de Verna, on a parlé d'Ed Kaba, ne serait-ce que par les noms. Parce que tu vois, il y a l'envie de choisir en tout cas des noms qui projettent dans une possibilité de se mettre en fiction, qui est assumée et qui est aussi très bien maîtrisée. C'est-à-dire, c'est pas non plus de l'ordre de la fausse identité, c'est la question du personnage, la question de la possibilité d'être dans un personnage qui était aussi, je pense, un héritage d'un monde subalterne et du monde de la nuit, c'est-à-dire aussi l'identité provisoire, et non pas, comme peut-être certains l'ont interprété, comme une affirmation d'une autre identité, mais une possibilité d'une identité provisoire. Je peux, à des moments donnés, être ça, comme tu disais, entrer et sortir. Je pense que la question de l'entrée et de la sortie est peut-être un peu caricaturée dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur des grandes affirmations identitaires, alors que la notion du jeu me semble être très présente avec à la fois les noms, à la fois le déguisement, à la fois donc les possibilités de faire des sorties dans différentes formes, comme on joue. Et j'ai l'impression que la mise en fiction dans le travail que tu fais épouse assez bien ce qu'eux-mêmes font, c'est-à-dire se mettre en fiction, s'autoriser une certaine mise en fiction qui est un espace de liberté. Et l'autre chose que tu précisais pour l'exposition, c'est évidemment que le projet tel qu'il se produit construit lui-même une situation dans laquelle il est possible de produire une forme performative et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il ne se referme pas, mais il a toujours quelque chose à dire.
C'est la question, c'est pas ni l'alter ego d'ailleurs, ni c'est plutôt la persona. C'est aller chercher le comme dans Matrix, tu sais, le self residual image. C'est-à-dire quel est ton noyau en fait, c'est cette persona en fait. qui va sortir dans les cas très très précis qui sont cathartiques. Alors soit pour Jean-Luc la mise en scène, soit pour les vogueurs des balls, c'est-à-dire des compétitions, soit pour Dead Cabal quand il est sur scène. Donc c'est à la fois la question de la persona qui va pouvoir sortir au moment de ses catharsis. Mais il faut les créer, ces catharsis. Pour les créer, ces catharsis, il faut mettre en place des dispositifs. Et c'est ça que je crée dans l'installation. Mais dans le film aussi, c'est des dispositifs où quelque chose de l'ordre de la persona va pouvoir sortir. Et moi, ça me renvoie à moi-même, parce que tu posais la question aussi de l'évolution de mon travail pour arriver à une narration, de sortir de moi, me cacher, de baisser un peu le masque. C'est que tout ce travail-là, à travers le voguing, à travers ses catharsis, à travers cette réflexion sur la persona, c'est aussi une manière pour moi de devenir artiste. C'est mon parcours, c'est ma transition à moi, d'arriver à un point où il y avait l'artiste dans un corps, mais le corps n'était pas encore celui d'un artiste d'une certaine façon. Et c'est vrai que le fait sans doute de performer me met aussi par mon corps dans une affirmation de qu'est-ce que c'est d'être un artiste, c'est sûr.
Alors là, on a un moment de l'installation qui est une boucle où les écrans passent au blanc, une espèce de scène comme ça dans laquelle les performeurs proposent des performances à certains moments d'exposition. Donc là, on a justement l'espèce de rapport un peu méta, c'est-à-dire la scène que compose l'exposition elle-même, c'est-à-dire qu'elle rejoue une possibilité de scène. Tu disais tout à l'heure, en fait, par rapport à cette question de ne plus prêter attention à la question du corps noir. Moi, je le présenterais, je pense comme toi, mais je le présenterais de manière différente. Je me rends compte qu'en fait, dans ton travail, tu ne recontextualises pas socialement et sociologiquement le corps noir comme systématiquement on le fait. On peut montrer un homme blanc à l'image, c'est un homme, mais un homme noir est presque systématiquement quelqu'un qui est sociologiquement positionné, quoi. La banlieue, je sais pas, le sport, la musique, ce qu'on veut, en tout cas, il n'est pas une personne, il est une personne dans un contexte qui sursignifie le fait qu'il est un homme ou une femme noire. Là, effectivement, ce qui est assez remarquable dans l'exposition, c'est qu'il y a une volonté presque vraiment très radicalisée d'extraire le décor social. Le paysage social apparaît que dans les corps, mais n'apparaît pas en fait comme espace d'assignation. On pourrait voir des moments à Baltimore, on pourrait voir ce moment du ghetto, on pourrait voir la Seine-Saint-Denis que connaît Dead Cabal, et là on a quelque chose qui... Et c'est peut-être pour ça en fait que je pensais à cette question du sacré. Je pensais aussi que ça devenait assez intemporel, qu'on sortait en fait de l'inscription et temporelle et géographique et sociologique les personnes qui devenaient des espèces de figures comme ça, qui s'animaient et qui retrouvaient peut-être les gestes de ce que l'art classique avait, c'est-à-dire bien en amont de la fonction anthropologique ou sociologique de représentation de l'art, représenter des situations un peu matricielles, quelques sujets finalement qui à l'infini étaient rejoués et remis en scène, mais qui n'étaient pas des sujets d'observation. Des sujets de l'imagination et évidemment de la question du religieux et du sacré, mais dans sa métaphore visuelle, je dirais.
Oui, c'est très, très juste. En tout cas, dès le départ dans le boulot avec eux, moi, je me suis positionné, je leur ai dit. On va faire comme si la question était résolue. C'est-à-dire on va être dans un espace transgenre, post-genre, pardon, et post-racial. C'est-à-dire on ne va pas activer les questions ou remettre en contexte la question de la race ou de la question du genre. On va être à un endroit où on va pouvoir créer des choses où on considère que pour nous la question est résolue ou en tout cas n'est pas une question. Et d'abord, la question du genre n'est pas une question, c'est une chose qui se vit. Et la question de la race, il faut s'en échapper parce que si on est constamment en train de la recontextualiser, on ne sortira jamais de ce système de race. Donc, alors c'est évidemment une chose avec laquelle je joue beaucoup, c'est que je vais travailler avec un vogueur, mais je vais le désassigner. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse chez le vogueur, c'est tout ce qui transporte avec lui, tout ce qu'il a en tant qu'individu, et que chaque vogueur est différent, ou Jean-Luc est différent, Dead Cabal est différent, ça pourrait être... Mais évidemment, c'est leur réflexivité qui m'intéresse et qui va transparaître, mais que je vais décontextualiser complètement, oui, effectivement. Donc en fait, c'est un espèce de trouble qui est lié dans ma façon de caster les gens, en fait. Je vais dire, à un moment donné, je vais travailler avec des sourds et muets. Alors on me dit, mais t'as pas le droit de dire que tu vas travailler avec des sourds et muets. Je dis, d'où j'ai pas le droit de dire que je vais travailler avec des sourds et muets. C'est-à-dire que tu ne veux pas encore une fois, reconnaître le fait qu'il y a en face de toi quelqu'un qui est sourd et muet. Mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser chez lui. Je vais pas parler avec lui de qu'est-ce que c'est d'être sourd et muet. Je vais faire quelque chose avec quelqu'un qui est sourd et muet. C'est complètement différent. Et qu'est-ce que ça va créer ? Qu'est-ce que son rapport au monde va pouvoir nous donner et nous éclairer de manière différente ? Ou nous renvoyer à nos propres biographies, parce qu'évidemment, ce que chacun d'entre eux va traverser ou traverse ou nous restitue, va résonner chez nous à d'autres endroits qu'on est incapable de voir, parce qu'on est censé être normaux, non racisés, non je sais pas quoi, tu vois. Donc évidemment, mais depuis le début, il y a une envie d'être dans un espace post-race et post-genre.
Peut-être que là, en t'écoutant, je me dis que finalement, il y a aussi comme un espèce de contrat pour une communauté provisoire. C'est-à-dire qu'ils se constituent en tant que tels et qui se constituent, ou qui tentent en tout cas de se constituer en dehors d'assignations et de géographie, et qui se posent comme communauté de l'instant et de la chose à faire maintenant.
You know about the country I go to, like, I don't know what it is about the, like, that draws me. And I think that's come from me living in New York, living on a quiet block and being drawn up to the hood. I just love the hood. I just love it. And then we moved to Baltimore, we lived out in the suburbs, and my cousins and them lived in the hood. So for the summer, I would come, and I would go back to the Bronx and hang in, you know what I'm saying, the hood. So I mean, no matter where I've grown up, and I grew up in the suburbs, but I gotta go back to the hood. And everybody be like, why you wanna hang in the hood? Like, you're not even from the hood. Like, even when I was staying at my grandmother's and she lived in the suburbs, and I went through much trauma, I'm driving a Mercedes. And everybody in the hood, they're like, why are you in the hood? Like, even my best girlfriend, she'd be like, you're not even from the hood. Why you always gotta be hanging in the hood? Like, she's like, don't wanna hang in the hood. And I'm like, it's some good people in the hood. She was like, I'll drop you off and I'll pick you up. And she'd be like, are you all right? And I'd just be like, yeah, I'm good. I'm hanging in the hood. And that's where I get my basis from. I date boys that from the hood. And I mean, like, it balances itself out, like, because wherever they're at in their life, because I've lived a life, I can, you know what I'm saying, direct them, educate them, influence them.